En fait, j'ai eu une communication un peu trop longue pour 2 heures. Et il ne me reste que quelques minutes pour parler de tout. Donc je suis obligé de faire des extraits de la communication complète. Alors, et même on n'aura plus le temps pour les questions, je crois. Bon. Les ouvrages didactiques utilisés dans l'enseignement du français en Russie au XVIIIe siècle. Je commencerai par la période initiale qui est très mal étudiée, il n'y a presque pas de travaux éclairant cette période. Tout d'abord, le plus souvent, on commence tout de suite par la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais l'enseignement du français en Russie débute au début du XVIIIe siècle par l'apprentissage à domicile de cette langue universelle de l'Europe des Lumières, et tout d'abord dans des familles très riches appartenant à la grande noblesse russe. C'est le tsar Pierre Ier qui a donné ici l'exemple à ses ministres. Son fils d'en premier lit, Alexis Petrovitch, a appris le français en suivant les instructions de Heinrich von Hussein, un baron allemand engagé comme précepteur du tsarévitch en 1703. L'instruction sur l'éducation de Monseigneur le prince Alexis Petrovitch, datée du 22 avril 1703, est centrée sur l'apprentissage non pas de l'allemand, comme il fallait s'y attendre, mais du français qui est considéré comme la langue la plus facile est la plus nécessaire. Pour parler français avec le grand-duc, plusieurs personnes connaissant le français devaient être préposées au service du tsarévitch. Il fallait veiller avant tout à ne parler aucune autre langue que le français, car une langue ne peut être mieux apprise autrement que par le commerce de tous les jours. Je cite l'instruction. On ne sait pas si cet article de l'instruction était mis en œuvre. Selon la copie de l'instruction publiée pour la première fois par Ivan Golikov à la fin du XVIIIe siècle, en étudiant le français, le tsarévitch devait se servir de la grammaire latine composée pour le dauphin. On a du mal à comprendre comment Alexis Petrovitch ou son précepteur aurait pu se procurer une copie de cette grammaire manuscrite qui était rédigée par Bossuet pour le grand dauphin Louis de France, et qui n'a jamais été publié. En réalité, Golikov et d'autres historiens après lui ont mal interprété l'instruction d'utiliser la grammaire de Fen, ou potriblet difieniu grammaire. Difieniu. C'est ainsi qu'est appelée la grammaire recommandée à l'usage du tsarévitch dans la copie de l'instruction citée par Ouskialov, qui, pourtant, lui-même, n'y avait pas fait attention. Tous les historiens ont interprété cette consigne comme la consigne d'utiliser la grammaire du dauphin. Qu'il s'agisse bien de la grammaire de François de Fène et non pas de la grammaire pour le dauphin est attesté dans l'original allemand de l'instruction publiée en 1706. À la différence de la grammaire pour le dauphin, la grammaire de François de Fène n'était pas restée manuscrite. Elle a eu de nombreuses éditions en Hollande, en Allemagne, ce qui témoigne de sa popularité en Europe du Nord. De plus, ce n'était pas une grammaire latine, mais une grammaire française rédigée en latin, ce qui correspond au texte ultérieur de l'instruction, car celle-ci, cette grammaire, peut donner accès à la langue française par l'intermédiaire du latin. L'instruction recommandait aussi la traduction de la grammaire de François de Fène en russe, car le tsarévitch ne savait sans doute pas le latin. En 1901, Mitrofan Marchenko a trouvé dans le département des manuscrits de la bibliothèque de l'Académie des sciences à Saint-Pétersbourg un rapport sur l'apprentissage du français par le tsarévitch en 1708. 5 ans après, ce rapport nous apprend que le jeune prince Alexis Petrovitch a déjà étudié parmi d'autres ouvrages, des dialogues faciles en français et en allemand, l'Orbis Pictus de Comenius, des fables d'Ésope et le début d'une histoire de Louis XIV. Outre la lecture de livres et de journaux et la mémorisation de 14 mots français et allemands tous les jours, Alexis Petrovitch devait encore parler français et allemand à table et pendant ses promenades. Le baron Hussein recommandait à son élève royal d'aborder ensuite en traité de civilité française le Nouveau Testament de Mons, le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, dédié au dauphin Louis de France, et les aventures de Télémaque, écrites par Fénelon pour le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, et déjà recommandé à Alexis Petrovitch dans l'instruction de 1701. Comme l'on voit, Hussein continuait en 1708 à suivre encore plus largement dans l'éducation du jeune prince les modèles de Versailles. Le catalogue manuscrit de la bibliothèque d'Alexis Petrovitch nous permet de compléter les informations sur les livres dont il pouvait se servir pour apprendre le français. Ce catalogue manuscrit mentionne la grammaire royale française de Jean-Robert des Peupliers, précepteur du duc de Bourgogne, le nouveau parlement, c'est-à-dire un petit dialogue français-allemand de Matthias Kramer, publié à Nuremberg au début du XVIIIe siècle, est le maître de langue muette ou instruction méthodique pour apprendre de soi-même les principes de la langue française par Jean Meyer, publié aussi à Nuremberg. Comme on le voit, faute de manuel de français rédigé en russe, le tsarevitch était obligé d'apprendre le français à partir de l'allemand qu'il connaissait déjà. Dans les grammaires françaises publiées en Allemagne et à l'usage des Allemands. Il faut noter que parmi les livres français d'Alexis Petrovitch, il n'y a presque pas de grands auteurs classiques, sauf Jean de La Fontaine, qui est représenté non pas par ses fables, mais par ses contes érotiques. Pour les dictionnaires, le catalogue ne donne que le lexicon Quatuor Linguarum, le dictionnaire en quatre langues, latinae, germanicae, grecae, gallicae de Nicolaus Gürtler, publié à Bâle à la fin du XVIIe siècle, dont la quatrième partie contient un dictionnaire français-latin. Bien évidemment, chercher le sens des mots français en passant soit par l'allemand, soit par le latin, n'était pas chose facile. Les filles d'un second lit de Pierre le Grand, Anne et Elisabeth, ont eu plus de chance et plus de facilité que leurs frères consanguins pour apprendre le français. Tout d'abord, elles avaient une gouvernante française, Madame de Launoy, un maître de danse et de compliments, Étienne Rambourg, ce qui leur permettait d'éviter de recourir à l'allemand dans l'apprentissage du français. Dans la bibliothèque de Pierre Ier, on conserve encore aujourd'hui une grammaire manuscrite du français, rédigé en russe et achevé après le 7 mai 1724. C'était la première grammaire française écrite en Russie et qui n'a jamais été étudiée. On ne sait pas au juste qui est l'auteur de cette première grammaire française écrite en Russie, mais certaines sources nous permettent de considérer comme son auteur possible le traducteur de l'Académie des sciences, Ivan Gorlitsky. C'était lui qui avait offert une grammaire française manuscrite de sa composition à Catherine Ière, mère d'Élisabeth, en signe de sa reconnaissance envers Pierre Ier, qui l'avait envoyé parfaire son instruction en France. Cette première grammaire française rédigée en Russie, qui s'appelle Grammaire française de la concordance ou de la syntaxe des neuf parties d'oraison, est remarquable sous bien des rapports, bien qu'elle reste toujours inconnue. Ce qui frappe tout d'abord dans cette grammaire de 1724, c'est qu'il ne s'agit pas d'un manuel rudimentaire traitant de la morphologie des parties des discours, mais bel et bien d'un manuel de syntaxe française de niveau avancé, c'est-à-dire de l'explication raisonnée des particularités d'emploi de toutes les parties du discours. De plus, l'auteur de cette grammaire fait preuve d'originalité dans le choix de ses propres exemples et de finesse dans son analyse des formes grammaticales françaises et de leurs équivalents russes. Je n'ai plus le temps de continuer ce sujet passionnant. Je passe au recueil de dialogues français-russes. La publication régulière des ouvrages didactiques pour l'enseignement du français ne commence en Russie que vers la fin des années 40, le début des années 50 du XVIIIe siècle. Cependant, le premier manuel de conversation qui comprenait des dialogues en latin, russe, allemand et français était imprimé pour la première fois à Saint-Pétersbourg à la fin des années 30, en 1738. Il porte le titre de Colloquia Scholastica, dialogue scolaire, réédité plusieurs fois tout au long de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est une traduction du latin en russe par Martin Schwanwitz des dialogues tirés de la grammaire latine de Joachim Lange. Et il y a aussi des détails intéressants sur la partie française qui a été corrigée par le célèbre astronome Joseph-Nicolas Delisle en 1746. Avant son départ pour la France en 1747. Même le grand astronome corrigeait des dialogues scolaires. En 1749, on voit apparaître à Saint-Pétersbourg un nouveau manuel de conversation en quatre langues, français, allemand, russe et latin, qui s'appelle Dialogue domestique. Plusieurs éditions aussi. C'est en fait une traduction en russe par Vassili Lebedev des 96 dialogues domestiques français-allemands avec des compliments familiers de Georg Philipp Platz. C'est pour la première fois en Russie que le français devient la première langue étrangère à apprendre avec ses compliments et ses façons de parler courtois qui servent de modèle pour leurs équivalents russes. Mais l'allemand fait encore fonction d'intermédiaire entre le russe et le français. Ces dialogues comprennent des conversations sur certains éléments de la nouvelle civilisation occidentale, par exemple des dialogues sur le thé, dont l'usage est devenu fort commun en Europe, surtout en Angleterre et en Hollande, sur le café et le tabac. À la différence des dialogues scolaires qui sont écrits dans un français familier et ont dans leur partie russe des équivalents parfois encore plus familiers, les dialogues domestiques donnent des spécimens d'une langue polie avec ses compliments. Et je n'ai pas le temps de parler de tous ces dialogues. Je mentionnerai seulement, peut-être pas, la combinaison de dialogues familiers et de façon de parler familière avec des compliments qui caractérisent le recueil le plus complet de nouveaux dialogues français et russes divisés en 130 leçons dues à Jean-Philippe Weglin. Oui. Je passe aux grammaires. C'est dans les années 50 du XVIIIe siècle que paraissent les premières grammaires françaises imprimées en Russie avec un certain retard par rapport au manuel de conversation. La première en date est la nouvelle grammaire française publiée en 1752 à Saint-Pétersbourg dans l'imprimerie de l'Académie des sciences et rééditée plusieurs fois. C'est une traduction de l'allemand en russe faite par Vassili Teplov de la nouvelle grammaire française de Pierre Restaud, publiée à Mayence et Francfort-sur-le-Main, qui s'inspire aussi d'autres grammaires, celles de Pépulier, Buffier, Pierre de Latouche. C'est en quelque sorte la vulgate grammaticale pour l'enseignement du français en Russie au XVIIIe siècle. Et j'ai fait toute une communication sur la grammaire suivante, celle de Pierre de Laval, et je suis obligé de vous renvoyer à mon article sur cette grammaire. Et je ne parlerai pas des autres grammaires, peut-être je dirais en petits mots sur les grammaires publiées dans les années 90 du XVIIIe siècle. Ces années voient apparaître de nouvelles tendances dans l'enseignement de la grammaire française en Russie, liées aux idées de la grammaire philosophique. Bien que les grammaires traditionnelles, qui remontent principalement, comme on l'a vu, à celles de Pierre Restaud, de Jean-Robert Despépliers et de Pierre Delatouche, gardent encore leur position. Sur ce fond de grammaire traditionnelle se font remarquer la nouvelle grammaire française d'Ivan Sotz, traducteur et maître de français à l'école gymnase de l'université de Moscou, et les nouveaux dialogues français et russes divisés en 99 thèmes sur les 9 parties du discours de Jean-Frédéric Fabian, traducteur et maître de la classe syntaxique allemande à l'université de Moscou. Je saute le reste. Oui, je voudrais parler encore d'une grammaire que je viens de découvrir et qui était inconnue, même des bibliographes, et qui n'est pas mentionnée dans le Svodny catalogue des livres dans les langues étrangères. C'est la grammaire de Duboulet. Et Duboulet, selon cette grammaire qui s'appelle en fait l'introduction à la langue française, est très curieuse. Duboulet se prononce pour la méthode naturelle de l'apprentissage du français, et puis dans quelques pages sur sa méthode pour s'initier dans la langue française à la fin du volume, il propose d'enseigner le français à l'aide de vocables figurés, c'est-à-dire avec des images qui représentent des mots groupés par thème et qui sont rangés sur des tables spéciales. Comme on le voit, Duboulet peut être considéré comme l'un des continuateurs des idées pédagogiques de Comenius et comme l'un des premiers théoriciens en Russie de la méthode directe avant la lettre. Je ne parlerai pas des manuels d'enseignement élémentaire du français, c'est un sujet à part, ni des premiers dictionnaires et vocabulaires français-russe, et je passerai peut-être directement à mes conclusions. Non, je mentionnerai quand même un recueil de mots français et russes qui n'a pas de rapport immédiat à notre sujet, mais qui est bien significatif du nouveau rôle international du russe dans la politique européenne. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Russes qui se mettent à l'apprentissage du français, langue internationale, mais des monarchistes français qui sont obligés d'apprendre le russe pendant les guerres contre Napoléon. Ce curieux ouvrage de 16 pages s'appelle « Le recueil de mots russes les plus nécessaires avec la prononciation française », publié à Ratisbonne en 1799. Il s'adresse non pas aux élèves russes, mais aux étrangers faisant partie des troupes alliées de la Russie, notamment à Monsieur les gentilshommes du corps de Condé, qui vient pour agir, je cite le texte, qui vient pour agir de concert avec les puissances coalisées afin de délivrer la France du joug insupportable de la soi-disant liberté républicaine et de rétablir la monarchie légitime et avec elle l'ordre et la tranquillité qui font seules les bases du bonheur de toute société. Les mots de ce recueil comprennent 8 rubriques thématiques relatives au repas, à la maison, à l'ameublement, aux instruments de musique, quand même c'était nécessaire, et aux armes, au cheval avec ses appartenances, aux matériaux pour écrire. Les vocabulaires thématiques sont suivis de phrases usuelles dont les militaires pouvaient avoir besoin, comme « Donnez-moi de l'eau, de la bière, de l'eau de vie »,« Давай мне води, пива, водки ». Et pour les conclusions, faisons maintenant le bilan de nos recherches sur les ouvrages didactiques utilisés dans l'enseignement du français en Russie au XVIIIe siècle. Premièrement, l'enseignement du français en Russie débute à l'époque de Pierre le Grand, mais ne prend son essor que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il est tout d'abord et surtout orienté sur les modèles allemands, notamment sur la grammaire royale de Jean-Robert Peplier, précepteur du duc de Bourgogne, le nouveau parlement de Mathias Cramer, les dialogues scolaires de Joachim Lange, les dialogues domestiques et le Cellarius français de Georg-Philippe Platz, les amusements philologiques et la grammaire des dames de David-Étienne Chauffin, et non pas d'autres grammaires pour les dames, mais je n'ai pas le temps d'en parler malheureusement. Ce qui s'explique par le haut niveau de la didactique du français en Allemagne et des maîtres de français d'origine allemande travaillant en Russie, mais formés dans des universités allemandes. Les Allemands servent d'intermédiaires, comme on le sait bien sûr, entre la culture française et la nouvelle culture laïque russe. Deuxièmement, les manuels de français publiés en Russie au XVIIIe siècle, la grammaire des Peupliers, la méthode pour apprendre facilement le français de Jacques-René Gauthier, les nouveaux dialogues français et russes divisés en 130 leçons de Jean-Philippe Feiglin contiennent des recueils de façons de parler qui préfigurent la méthode communicative de nos jours. C'est très curieux d'en parler plus en détail. Les modèles didactiques français commencent à évincer leurs concurrents allemands par l'adaptation aux besoins de l'enseignement du français en Russie des principes généraux et raisonnés de la grammaire française de Pierre Restaud, dédiée au duc de Chartres, grâce à Pierre de Laval, Louis Bougeot, Jacques-René Gauthier et toute une armée de précepteurs français qui ont émigré en Russie sous Elisabeth Petrovna et Catherine II. Il est à signaler aussi que la première édition du Magasin des enfants de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont est commanditée, d'après la liste des souscrivants, par la Cour de Russie sous Elisabeth Petrovna. C'est un fait qui n'est pas bien connu, je crois. L'influence de la grammaire philosophique française ne se fait sentir dans l'enseignement du français en Russie qu'à partir des années 90 du XVIIIe siècle, surtout dans la nouvelle grammaire française d'Ivan Sotz et dans celle de Fabien, dont je viens de parler. Avant, les emprunts de Restaud à la grammaire philosophique étaient éliminés des adaptations de sa grammaire en Russie. Et pour conclure, les modèles littéraires utilisés dans l'enseignement du français suivent dès le début ceux de Versailles. Ce sont avant tout les fables de La Fontaine, dédiées au grand dauphin, comme on le sait, fils de Louis XIV. Enfin, le premier recueil, et puis le deuxième à Madame de Montespan, et le troisième et le dernier au duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, dédié au grand dauphin Louis de France, et les aventures de Télémaque, écrites par Fénelon pour le duc de Bourgogne. Comme on le voit, c'est l'éducation des princes qui sert de modèle d'abord pour l'éducation de la noblesse et puis pour toutes les classes de la société. Merci de votre attention.